Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue en ce mois de mai pour ce nouveau numéro du carnet de région dont Radio Lodève a la rédaction en chef cette semaine encore. Le carnet de région, c'est un magazine d'actualité que vous propose chaque semaine des radios associatives non commerciales du Languedoc Roussillon. Au sommaire, les élections européennes. L'eurodéputé José Bové était à Montpellier cette semaine. Cette semaine dans l'Aude également, l'Europe était au cœur d'une fête de la tolérance à Badens, portée par des jeunes de la communauté de communes Piémont d'Alaric. Dans cette édition, nous reviendrons sur la loi handicap qui a été reportée entre 3 et 9 ans selon les cas, ce qui fait réagir les associations, dont l'association Action Handicapée Égalité de Montpellier. Nous entendrons le témoignage d'un berger itinérant installé dans la vallée du Salagou. Nous parlerons également, dans le Gard cette fois, des 80 ans de la marque La Baleine que produit les Salins du Midi à Aigues-Mortes. Enfin, direction Bédarieux dans les Hauts Cantons de l'Hérault où l'association Résurgence planche actuellement sur le patrimoine industriel riche de la ville. À l'occasion des beaux jours, des jours fériés, des ponts du mois de mai, les gendarmes ont multiplié leur présence sur le bord des routes de l'Hérault. Ils ont aussi multiplié les contrôles, essentiellement les week-ends ou veilles de week-end. Des contrôles effectués pour la plupart par l'escadron départemental de sécurité routière que dirige le commandant Pascal Petit, que l'on écoute au micro de Radio Lodève.
Il y a toujours beaucoup d'efforts à faire. Évidemment, c'est un département très meurtrier, monsieur le préfet l'a dit. Mais surtout, ce que l'on demande, c'est que les conducteurs, les usagers de la route, nous aident justement à aider à leur sécurité. Les gendarmes, les agents de la force publique ne peuvent pas être derrière chaque conducteur. Là, on en appelle donc au civisme. Et évidemment, les gendarmes pour les grands week-ends du mois de mai, sont à chaque arrivée de week-end sur le terrain justement pour effectuer de la présence, des actions préventives justement pour que les gens évitent de se tuer.
C'est le rôle en particulier de l'escadron départemental de sécurité routière. Avec quels moyens ?
Je dispose de 140 hommes justement pour pouvoir faire ceci, assurer la sécurité des usagers de la route sur le département. Bien évidemment, les compagnies du groupement, les compagnies de gendarmerie départementale nous aident par un appui ou alors des contrôles effectifs effectués sur le terrain. On fait toutes sortes de contrôles, des contrôles vitesse bien évidemment classiques. On travaille aussi avec le radar mobile. Il ne faut pas oublier que dans le département, nous possédons 2 radars mobiles qui ont fait depuis le début de l'année plus de 6000 clichés. Nous effectuons des contrôles d'alcoolémie, des contrôles de recherche de conduite après usage de stupéfiants. Nous tapons sur tous les leviers d'action les plus significatifs pour éviter justement qu'il n'y ait trop de drames sur nos routes.
Et les causes des accidents et des accidents mortels, c'est dû essentiellement au mauvais comportement des conducteurs ?
C'est toujours dû au mauvais comportement du conducteur, tout le temps. Soit l'alcoolémie, soit l'usage de produits stupéfiants, soit la vitesse, soit le non-respect des règles de priorité. C'est pour cette raison que le conducteur doit faire attention à lui et à sa famille, mais surtout aux autres.
La campagne pour les européennes s'accélère. José Bové était à Montpellier cette semaine. Le candidat Europe Écologie Les Verts pour la circonscription du Sud-Ouest tenait un meeting avec Daniel Cohn-Bendit. Principale énigme de ces élections du 25 mai prochain, le taux d'abstention, une donnée qui n'effraie pas José Bové. C'est justement les sceptiques qu'il faut convaincre pour l'eurodéputé, que l'on écoute au micro de Romain Bercher de RCF Hérault.
C'est un taux d'abstention, on le voit, qui est élevé aussi bien pour les européennes, mais on l'a déjà vu pour les municipales. Donc on est dans une situation aujourd'hui où les gens en ont ras-le-bol parce qu'ils ne croient plus au discours politique traditionnel. Et donc ils ont envie de bouger. Donc nous, il faut qu'on les convainque de dire « Ok, vous êtes en colère, vous êtes en révolte contre une vision politique qui est complètement dépassée. Vous avez raison d'être en colère, mais maintenant il faut l'exprimer. Et la meilleure façon de l'exprimer pour changer les choses, c'est voter pour des gens qui ont fait bouger les lignes au niveau européen, au Parlement européen, par exemple contre les OGM, contre le gaz de schiste, contre ACTA qui venait prendre sur la liberté individuelle aussi sur Internet. On est là capable de faire bouger les lignes dans le Parlement. Eh bien, votons pour des candidats qui bougent dans le Parlement. Nous, on a fait le choix que toutes les têtes de liste, sauf une, qui est une jeune nouvelle, soient des députés qui ont déjà fait des mandats et qui ont défendu et qui ont des choses à dire parce qu'ils ont déjà démontré leur efficacité au Parlement. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de partis qui recasent aujourd'hui des personnes parce que effectivement ils ont été battus aux élections législatives. Moi, dans ma région, c'est Mme Alliot-Marie qui est tête de liste. Franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que Mme Alliot-Marie, aujourd'hui, la seule chose qu'elle est capable de dire sur l'Europe, c'est qu'elle va à l'Europe, mais qu'elle va gagner moins d'argent en allant à l'Europe. C'est pas un discours, c'est pas un projet, c'est pathétique d'entendre ça. Et des autres nous disent, nous on va aller à l'Europe, mais en fait c'est pour combattre l'Europe parce qu'on est contre l'Europe. Dans ces cas-là, tu vas pas à l'Europe, tu fais autre chose. Tu te bats, j'en sais rien où, mais à un moment il faut être cohérent. Et là je pense qu'aujourd'hui on a un discours complètement fou chez un certain nombre de gens. Quand je vois le candidat du Front National aujourd'hui, ici dans notre région, qui se prend pour le nouveau Qatar, ces mecs sont fous. Ce sont des fous. Quand il dit on va être les députés français à l'Europe, ça veut rien dire. On défend une citoyenneté. Ce sont 500 millions de citoyens qui se sont mis ensemble pour dire on en a assez des guerres, on en a assez des nationalismes, c'est pour ça qu'on a fait l'Europe. Le nationalisme, c'est la guerre, c'est ce que François Mitterrand a dit en 1995 devant le Parlement européen. Eh bien, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ces valeurs européennes qu'on se bat.
Je vous rappelle que les élections européennes, elles auront lieu le 25 mai prochain, il n'y aura qu'un seul tour. L'Europe, justement, c'est le thème choisi cette année dans l'Aude pour la 18e fête de la tolérance portée par des jeunes de la communauté de communes Piémont-d'Alaric, une contrée rurale située à une vingtaine de kilomètres de Carcassonne, avec au final un spectacle qui s'est tenu ce mercredi dans le village de Badens, intitulé 505 millions d'Européens, dont nous parle l'animatrice Alexandra Escourou au micro d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
Ce spectacle a été créé dans un souci de mémoire et de témoignage artistique d'une réalité que l'on ne doit pas oublier. L'Union européenne dans laquelle nous vivons aujourd'hui est un espace de paix et de stabilité que nous tenons pour acquis, mais qui n'aurait jamais vu le jour sans l'énergie et la motivation de dirigeants visionnaires. Donc c'est pourquoi les jeunes de cette 18e édition veulent montrer qu'en 2014, l'Europe est plus que jamais d'actualité. Donc du coup, les jeunes ont commencé à travailler sur l'Europe et la paix dès le mois de janvier et ils en sont arrivés au constat que l'Europe, ce n'est pas la paix, mais la conséquence de la paix. Donc de ce fait, leur spectacle où va se mêler différentes formes d'expression, donc du hip-hop, du jonglage, des acrobaties, de la poésie, du chant. Chaque jeune dans son domaine va traduire par une idée simple et parfois emblématique son identité européenne, qu'il s'agisse de principes humanistes, de réalités quotidiennes ou de perspectives.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La loi sur l'égalité des chances de 2005 donnait 10 ans à tous les établissements, publics ou privés, pour se mettre aux normes et devenir accessible à tous, 10 ans pendant lesquels les propriétaires de boutiques, les collectivités territoriales ou encore les compagnies de transport étaient censés engager des travaux, 10 ans pendant lesquels il ne s'est finalement pas passé grand-chose. En 2012, l'inspection générale des affaires sociales évaluait à 15% le nombre d'établissements recevant du public aux normes. En février dernier, moins d'un an avant l'échéance, le gouvernement annonçait le report de cette loi de 3 à 9 ans, selon les cas, une décision confirmée par le Sénat le 28 avril dernier, qui a du mal à passer pour beaucoup et scandalise les associations. C'est le cas de Action Handicap Égalité, basée à Montpellier, que préside Dominique Minana. Depuis qu'elle a appris la nouvelle, elle manifeste tous les mercredis sur la place de la Comédie. On l'écoute au micro d'Anaïs Ragon pour Radio Aviva.
Pour moi, c'est inacceptable. J'ai lu ce matin que la secrétaire d'État aux personnes handicapées disait que c'était une utopie, l'accessibilité rapide. L'accessibilité rapide de 40 ans, vous m'excuserez, on n'est pas dans la rapidité. J'ai 55 ans, 55 ans que je suis dans le handicap, 55 ans que j'attends de pouvoir vivre comme tout le monde. 2005 a donné des espoirs aux gens. La loi a été votée, elle a été adoptée, maintenant elle doit être appliquée. 2015, ce n'est pas une date fixée comme ça au hasard. On avait donné 10 ans au commerce, aux établissements recevant du public, aux cabinets médicaux, pour se mettre en conformité. Maintenant, ils doivent le faire.
Vous pensez que le report aussi de cette accessibilité à 2015 a été repoussé aussi par manque d'implication de la part des politiques ?
Oui, tout à fait. Pour moi, la priorité n'a pas été mise où il faut. On nous dit toujours, fais la crise. Faire des travaux pour le handicap, c'est-à-dire faire des plans inclinés, entre autres, fait donner du travail à des entreprises locales, fait pas du travail qui est délocalisable. Donc, mettre la priorité là, fait aussi apporter une manne de travail à un moment de crise, donc des ressources en termes de TVA et en termes de cotisation de salariés dans une période difficile. C'est pour ça, c'est pas du travail inutile, c'est un travail concret, nécessaire, qui pourrait changer favorablement la donne.
Quelles actions mettez-vous en œuvre avec l'association ?
Alors, pour l'instant, c'est surtout du revendicatif, puisque bon, nous faisons environ de tous les mercredis. On a commencé avant les municipales, puisque bon, on voulait vraiment un positionnement de tous les élus. Certains ne nous ont même pas répondu, mais au moins, on a obligé quelques-uns à se prononcer par rapport à ce thème. Bon, la nouvelle équipe municipale se met en place. On a remarqué qu'il n'y avait pas de référent handicap pour la municipalité de désigner pour l'instant. On a déjà demandé à M. le maire de nous recevoir. On espère pouvoir travailler avec la nouvelle municipalité. Là, bon, on a en ligne de mire les européennes. On est en train de prendre un contact avec tous les candidats aux européennes de la région. On va essayer de voir aussi avec eux ce qu'ils ont l'intention de faire pour le handicap. Puis qu'il y a des directives européennes qui actent la non-discrimination et que nous, on demande clairement l'application. C'est pour ça que même si on perd la bataille par rapport à la loi de 2005, bon, si le Sénat a voté et que le gouvernement va pouvoir faire comme il veut, quand il veut et ce qu'il a envie, on espère passer au-delà et aller voir du côté européen pour revendiquer nos droits. Voilà.
La présidente de l'association Action Handicap Égalité de Montpellier qui répondait aux questions d'Anaïs Ragon de Radio Aviva Montpellier. Un témoignage à présent, celui de Ricardo Smimaro, berger itinérant en ce moment dans la vallée du Salagou. Ce jeune homme âgé d'une trentaine d'années gère un troupeau de 1000 moutons. Il pratique un élevage autrefois très répandu qui consiste à mener le troupeau au gré de l'herbe en mouvement continuel sans bergerie fixe. Le passage des brebis dans des friches sur des surfaces non pâturées par d'autres éleveurs répond à des enjeux paysagers. Ouverture des milieux, entretien des pentes, mise en valeur des paysages. Ricardo Smimaro s'exprime au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault sur la situation des bergers itinérants.
Et je vois mon monde qui est, comme on n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues, je pense pour les autres ça doit être pareil aussi quoi. Chacun, après comme je vous dis moi, vous voyez mon troupeau là, vous voyez ce troupeau, il est unique au monde. Le troupeau de l'autre à côté, ben, il est unique au monde parce qu'il est fait à sa main, c'est fait à la main du berger. Et les vaches, c'est pareil, chaque bête est unique, il n'y en a pas une, peut-être pour tout le monde c'est pareil, mais non, une brebis, elle a son caractère et elle a quelque chose qui change, c'est ça une bête. Et ça, tout ça, les hommes, ils ont tout perdu. Hein. Ils ont perdu. Maintenant, on voit peut-être plus le business, l'argent, que la bête, quoi. Moi, je regarde que mes bêtes, hein, c'est tout. Moi, j'ai fait ça pour la vie comme ça, mais je la voyais pas comme ça. Je la voyais pas être à la rue comme ça. Je la voyais plutôt avec ma ferme, ma femme, mes enfants et mes petites terres, et monter à la montagne. Voilà. Mais bon, ça devient la montagne cauchemar et tout ça.
Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour que le monde du berger soit meilleur?
Maintenant, je crois que c'est foutu maintenant, c'est pas possible. Il y a trop de monde qui s'occupe de trop de choses. Il y aura ceux des loups, ceux des ours, ceux des arbres, ceux des oiseaux, ceux des... Voilà, mais bon, pour nous, il n'y a rien. Il y a que pour tout, mais pour nous, il n'y a rien. Et pourtant, je vais vous dire une chose. À l'époque, c'était comme ça. C'était avec les moutons. Hein. On vivait avec elles. Hein. On vivait avec les bêtes. Hein. Et maintenant, il ne faut pas pleurer que tous les milieux se ferment. Il n'y a plus de bêtes pour les chasseurs. Il faut arrêter tout ça. Hein. Il faut arrêter la mécanique débroussailleuse. Il faut arrêter de rêver. Il faut remettre des bêtes. Il faut réinstaller des bergers. Il faut revaloriser la viande. La viande, moi, à nos enfants, à l'heure actuelle, on est en train de faire manger, franchement, pas de la bonne nourriture. On n'a pas de la bonne eau aussi non plus à l'heure actuelle. Moi, je dis, il faut changer, quoi.
Ricardo Smimaro, berger herbacier et paysan itinérant qui n'a pas à ce jour obtenu l'accord des pouvoirs publics pour s'installer durablement dans la vallée du Salagou.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cette année, le sel des Salins du Midi, la Baleine, fête ses 80 ans. C'est le sel made in France, marque préférée des ménagères. Ce sel blanc de la mer a sa place sur vos tables depuis 1934. Et c'est dans le Gard, à Aigues-Mortes, qu'on le produit. Dominique Dupeux est directeur rattaché à la présidence des Salins du Midi. Il revient sur la création de la marque au micro de Naïma Servès de Delta FM.
Cette baleine donc est née en 1934 sous la plume d'un dessinateur qui s'appelle Benjamin Rabier, qui est le dessinateur aussi fétiche de la vache qui rit. La concurrence à l'époque était rude, comme aujourd'hui d'ailleurs, et on avait comme principal concurrent des selles de Franche-Comté, dont l'emblème et la marque étaient le lion. À l'époque, on s'est posé la question de savoir quel animal emblématique on pouvait choisir, et quel était le roi des animaux marins. Et le roi des animaux marins, c'est la baleine, donc versus le roi des animaux terrestres, qui est le lion.
Chaque année, vous en produisez combien de sel la baleine? Vous avez un petit peu de chiffres?
Donc la baleine, ça représente 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un total de 268 millions d'euros pour la compagnie, parce qu'on ne fait pas que la baleine. La baleine est le leader sur son marché, sur le marché de la grande distribution, puisque la baleine s'adresse au consommateur final à travers la boîte verseuse ou la salière. C'est la marque leader et on se doit d'être à la pointe de ce marché-là. On essaye d'inventer sur un marché qui est pas facile, d'inventer régulièrement de nouveaux produits pour être au top.
Depuis 80 ans, la marque La Baleine a évolué. Elle est passée d'un format, on va dire, en papier à un format en plastique. Enfin, la forme a évolué aussi.
La forme a évolué, mais on garde quand même la boîte verseuse, qui est emblématique, hein, une boîte en carton ronde. Elle a évolué parce qu'on est passé ensuite à la salière plastique, dans des petits formats, parce que la baleine en boîte carton, c'est plutôt 600 grammes, et au-delà, la boîte plastique, c'est plutôt 250 grammes et 125 grammes.
Ce sel qu'on trouve souvent sur les tables françaises, on le retrouve ailleurs aussi en Europe et au-delà.
Tout à fait, nous avons une part à l'export qui est relativement importante, c'est 25% à l'export, donc le sel de la baleine, qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada, on est en train de prendre des parts sur le marché anglais, en Russie, donc etc. Donc on a une bonne image donc à l'étranger et on va la développer bien entendu. La caractéristique du sel de la baleine, c'est que c'est un produit qui est né sur le plus grand salin d'Europe, qui est le salin Aigues-Mortes, qui fait environ 10 000 hectares. 10 000 hectares, pour vous donner une image, c'est Paris intramuros. On pourrait faire entrer la ville de Paris dans le salin. Donc c'est un produit, c'est un sel marin qui est né sous l'action du vent et du soleil. Donc ça, c'est sa caractéristique principale. C'est un sel naturel. C'est un sel naturellement blanc, puisque le sel chlorure de sodium est blanc par nature. Et donc ensuite, il a été élaboré pour convenir à la ménagère qui va s'en servir dans sa cuisine. Donc on a du sel gros, du sel fin, mais aussi de la fleur de sel la baleine, qui est produite sur le site.
Quels sont vos plus gros consommateurs dans le monde du sel la baleine?
En France, donc, pour revenir à notre marché, notre cœur de marché qui est la France, le sel fin est un sel qui est très facile d'utilisation en cuisine. En sel gros, c'est le sel traditionnellement pour faire les pâtes. Et une des caractéristiques, par exemple en Italie, c'est de saler l'eau avec du gros sel. Pour revenir sur le marché des États-Unis notamment, ils n'ont pas ou très peu de production de sel de mer. Et donc, ils ont trouvé à travers le sel la baleine une possibilité, un moyen d'avoir du sel de mer parce qu'il y a une communauté hispanisante qui est très importante. Je parle notamment des Mexicains. Et donc, c'est un sel qui leur convient très très bien. Donc, il y a eu un développement et il n'est pas rare de trouver sur les tables à New York du sel la baleine.
J'ai vu une petite info, une petite brève dans un journal, comme quoi Barack Obama se servait de ce sel.
Tout à fait. Donc, on a une image d'une réunion où on voit Barack Obama et une salière, une boîte verseuse qui est devant lui. Et on se réjouit, enthousiaste de voir que les efforts qui sont déployés par des salariés de la compagnie, de l'opérateur qui va mettre en boîte le sel jusqu'au à notre président, de voir toute cette chaîne qui est récompensée. Ça, c'est effectivement, ça donne envie de continuer et de faire prospérer la marque et de faire prospérer des produits nouveaux.
On peut dire que le sel de la marque La Baleine est le premier sel français.
On peut affirmer que le sel de La Baleine est le premier sel français, qu'il a une notoriété extraordinaire, puisqu'il est cité très facilement par les consommateurs lorsqu'on leur dit « qu'est-ce que vous achetez comme sel ?» Ils citent spontanément le sel La Baleine. C'est formidable d'avoir une telle notoriété et on veut la conserver, bien entendu.
Dominique Dupeux, directeur rattaché à la présidence des Salines du Midi, qui nous parlait des 80 ans du sel La Baleine, au micro de Delta FM. Direction Bédarieux, où l'association Résurgence travaille sur un nouveau projet autour du patrimoine industriel très riche de la ville et de tout un bassin. Un travail d'inventaire fait en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon et Lisa Calixte, qui prépare la réalisation d'une publication sur le patrimoine industriel de l'Hérault, publication qui sortira le 7 mai. On écoute Jean Lavastre, le secrétaire de Résurgence, au micro de Claude Durbézic de Radio Lodève.
On a la chance d'avoir Lisa Calixte, qui est en mission envoyée par M. Bourquin du Conseil régional. Et elle travaille avec nous sur le patrimoine industriel de la ville de Bédarieux, avec bien sûr les grandes familles qui ont marqué cette ville. En fait, je parlerai de la famille Dolady, je parlerai de la famille Monin. Famille Dolady pour le textile, famille Monin pour la tuilerie et la bauxite. Donc, on prépare un travail, c'est-à-dire on est en train de faire un inventaire de ce patrimoine. Et Lisa Calixte nous relaie parce qu'elle va faire une publication sur le patrimoine industriel de l'Hérault et plus particulièrement de la région de Bédarieux. Il y avait une grande diversité de ce patrimoine industriel. Ça allait en effet, comme on a dit, de la confiserie aux tuileries, à l'industrie textile, à la tannerie, puisqu'on a aussi eu une vingtaine de tanneries sur la ville. C'est un inventaire à partir de la réalité et à partir des vestiges. Par exemple, le travail que Lisa Calixte a fait sur la bauxite, on l'a fait à partir des sites d'exploitation de la bauxite, puisqu'en fait, à partir de la gare vieille, la bauxite partait sur Salendre dans le Gard pour être transformée en alumine, avec Pechiné qui a été donc la première usine en France, qui est à Salennes, avec Henri Merle, qui a inventé le processus de l'alumine.
Est-ce que ça va déboucher sur une exposition, sur quelque chose qui sera visible par le public?
Alors, déjà, donc, Lisa Calix va faire une publication qui sort le 7 mai. Mais c'est un premier travail. Il va y avoir un deuxième travail. Elle a sélectionné, disons, notre bassin, puisqu'en fait, l'exploitation, enfin l'industrie dans la région de Bédarieux, c'était pas uniquement Bédarieux, c'était tous les villages autour. Parlons de Graisse-Sacre, où Lisa Calixte a déjà travaillé pour présenter les mines de Graisse-Sacre. Et ce contexte industriel, ça va être mis en valeur et on peut arriver à une perspective qui est celle du tourisme industriel. Donc en fait, nous allons procéder comme habituellement, c'est-à-dire que après donc un travail de recherche, d'approfondissement, on fera une conférence sur Bédarieux avec les différents intervenants, puisque je vous ai parlé de la famille Dolady, de la famille Monin. Il y a encore des personnes de ces familles qui sont là et qui sont dans un souci de protection et de revalorisation. C'est-à-dire que ce sont des descendants qui sont en capacité de porter cette mémoire et de la communiquer aux Bédariciens et bien sûr plus largement aux personnes intéressées par ce qui s'est passé au canton de l'Hérault.
Jean Lavastre, le secrétaire de l'association Résurgence à Bédarieux.
Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Voilà qui termine ce carnet de région. Cette semaine, le magazine d'actualité que vous propose des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, c'est Radio Lodève qui en a assuré la rédaction en chef. Je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. À très bientôt.